C'est bon, on m'entend? Alors, vous entendez l'accent, hein? Ça vient d'outre-Atlantique, du Québec. Je suis heureux d'être parmi vous. Vous savez, je suis venu de temps en temps pour des réunions ici et je me suis dit que ce serait bien d'assister à un culte, d'être avec mes frères et sœurs, d'apprendre à les connaître. Et voilà que la semaine dernière, j'ai reçu l'invitation et j'étais très heureux et le Seigneur nous bénit. Maintenant, ce matin, il est là et ça nous fait du bien. Il est bon envers nous. Pour la lecture, j'ai avec moi Gaël qui est un collaborateur dans l'œuvre au Val d'Europe et je lui demande de venir lire le passage pour ce matin qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9, versets 28 à 36. Donc, Luc 9, 28 à 36.
Alors, je lis dans la version Luc second. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ces temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen.
Prions. Seigneur, très simplement maintenant, nous demandons ton aide. Nous demandons l'assistance de ton Saint-Esprit. Nous demandons que tu nous disposes et que tu éloignes tout ce qui pourrait nous distraire. Nous demandons, Seigneur, de te manifester par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Vous est-il déjà arrivé d'être témoin d'un événement hors du commun? Témoin d'un événement hors du commun. C'est pas, vous vous trouvez au coin de la rue, il y a un grave accident, vous êtes là. Ou peut-être, comme ça arrive souvent dans mon pays, vous avez vu un aurore boréale. Vous avez déjà vu ça? C'est extraordinaire. Des faisceaux de lumière, très beau. Événement extraordinaire, peut-être vous étiez dans un jardin zoologique et puis vous avez assisté à la naissance d'un animal en captivité, je ne sais pas. Vous êtes allé assister au départ d'une navette spatiale à Kourou ou en Floride. Un éclipse, une tornade, un tsunami, je ne sais pas. Un événement spécial. Ce genre d'événement extraordinaire, hein, dont nous sommes témoins, ça nous marque. Et on en parle longtemps. On en parle longtemps même après que l'événement a eu lieu. Moi, je parle encore, par exemple, de l'aurore boréale que j'ai vue sur l'autoroute 401 en allant vers Toronto, de Montréal à Toronto. Il y avait des voitures qui étaient alignées là, et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et là, tout à coup, mon épouse me dit, regarde. Alors bien sûr, je me suis mis sur le bas-côté et j'ai commencé à regarder. Et là, Dieu nous a fait un spectacle extraordinaire, là dans le ciel. Et j'en parle encore. Alors c'est le cas de l'événement relaté dans ce texte de l'Évangile de Luc ce matin. Un événement extraordinaire dont on se souvient. On l'a lu dans le chapitre 9. Alors le récit que notre texte de ce matin raconte, il a lieu vers la fin de la mission de Jésus. Jésus a passé 3 ans avec les 12 disciples qu'il a choisis lui-même. Il a consacré des heures et des heures et des heures à les enseigner sans relâche. Ils l'ont vu parler aux foules. Ils ont été témoins de conversions spectaculaires, de délivrances, de guérisons, d'exorcismes même. Ils ont été touchés par son amour, sa compassion. Ils commencent à comprendre que Jésus, c'est un homme de Dieu exceptionnel. Jésus a fait naître dans leur cœur des espoirs pour eux-mêmes et pour tout le peuple. Mais savent-ils vraiment qui il est? Ont-ils compris les mystères de son identité? Alors pour comprendre la signification, les enjeux du récit de la transfiguration de Jésus, il faut rembobiner un peu. Environ 8 jours avant la description de ce qui s'est passé sur la montagne, Luc rapporte une conversation que Jésus avait eue avec ses disciples alors qu'il les avait pris avec lui pour prier. C'est au verset 18 du chapitre 9. Et là, dans ces moments d'intimité avec Dieu, Jésus avait eu à cœur de leur demander ce que la foule disait à son sujet. Qu'est-ce que la foule dit à mon sujet? Qui dit-on que je suis? Chapitre 9, verset 18. Alors pourquoi Jésus pose-t-il cette question aux apôtres? Pourquoi? Se préoccupe-t-il à ce point de ce que les gens pensent de lui? Est-ce qu'il cherche à soigner son image de marque? Est-ce qu'il veut être populaire? Non, certainement pas. Mais cette question de son identité, ce n'est pas pour lui-même qu'il la pose. C'est pour ceux vers qui il a été envoyé. Qui dit-on que je suis? De toutes les questions que les hommes peuvent se poser, celle-là, c'est la plus importante. Toute la mission de Jésus tourne autour de cette question. Les hommes ont besoin de savoir qui Jésus est pour entrer dans le plan d'amour que Dieu a pour leur vie. Qui dit-on que je suis? Alors, bien sûr, avant que Jésus leur pose cette question, les apôtres ont bien entendu les conversations des Juifs autour d'eux. Des Juifs de Jérusalem, de Galilée, de Judée, partout où ils sont allés avec Jésus. Ils ont entendu les conversations. Et la population, elle est divisée au sujet de Jésus. Jésus suscite la controverse. Certains disent « Ah, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. » D'autres disent que le prophète Élie est de retour sur la terre. Et pour quelques-uns, Jésus, c'est un des anciens prophètes ressuscités. Et là, les rumeurs vont bon train. Jésus se tourne alors vers ses apôtres et leur demande à eux, « Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qui dites-vous que je suis ?» Alors voyez-vous, il ne s'agit plus maintenant de reprendre les idées des autres. Ils ne peuvent pas se contenter de ce que leurs voisins pensent. Il ne s'agit pas simplement de répéter le discours officiel. Non, qui dites-vous que je suis? Vous. Et cette question exige une réponse, bien sûr. Alors comme c'est son habitude, Pierre va s'empresser de répondre. Le Christ de Dieu. Bonne réponse, Pierre. 20 sur 20. Et nous, en tout cas moi, avec le ministère d'implantation d'église, d'évangéliste, moi j'aurais dit à Pierre, « Hé, ce que tu viens de dire là, va l'annoncer à tout le monde, il faut que tout le monde sache. » Jésus dit tout à fait le contraire. Étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant. Jésus leur recommande sévèrement de ne le dire à personne. Mais pourquoi? Pourquoi? Avant de répondre et de répandre la vérité que Jésus est le Messie, les apôtres doivent comprendre que cela veut dire être le Messie. Ils doivent comprendre cela. Et là, les versets 22 à 27 donnent un contenu à ce titre de Messie, un titre qui avait été tellement galvaudé à l'époque des apôtres. Et si on comprend les explications de Jésus dans les versets 22 à 27, on comprend que le Messie, ce n'est pas seulement l'élu de Dieu. Ce n'est pas celui qui vient seulement régner avec puissance et gloire. Ce n'est pas seulement cet homme de Dieu exalté, triomphant, qui va soumettre tous les ennemis d'Israël. Un grand héros militaire à la manière de David. Non. Le Messie, c'est aussi le Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup. Il doit être rejeté par les anciens d'Israël, par la classe religieuse de son époque à Jérusalem. Le Messie doit être mis à mort et ressuscité. Et Jésus continue en précisant que l'établissement du royaume de Dieu doit se faire dans la douleur et le renoncement, la mort à soi-même, l'esprit de sacrifice. En bref, la gloire finale et permanente du royaume de Dieu, même si le Messie est là, et il était bien là, avec les apôtres, alors la gloire finale et permanente du royaume de Dieu, ce n'est pas pour tout de suite. Et c'est cette dimension-là qui échappait aux apôtres. Revenons-en à notre texte de ce matin. Comme on l'a dit précédemment, il y a une semaine qui s'est écoulée depuis les explications de Jésus concernant son identité. Une semaine s'est écoulée. Et là, de bon matin, Pierre, Jean et Jacques partent avec Jésus pour prier. Ils sont maintenant là sur une haute montagne avec Jésus. Ils ont passé une bonne partie de la journée à prier. Une retraite spirituelle avec Jésus, une journée de prière avec lui. Ordinaire. Quel privilège pour eux. Alors au début, ils sont émerveillés. La façon dont Jésus parle à Dieu les impressionne beaucoup. Il est si proche de Dieu. Il le connaît si bien. Mais au bout d'un certain temps, ils commencent à être fatigués. Le jour baisse, ils commencent à s'assoupir. Mais Jésus, lui, continue à prier. Et sa prière se fait de plus en plus intense. Et au moment où ils sont sur le point de succomber au sommeil, là, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Une grande lumière vient illuminer le lieu où ils se trouvent. La nuit vient de tomber, mais le sommet de la montagne est plus clair qu'en plein midi. Et cette lumière qui émane du visage et des vêtements de Jésus, ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est une lumière surnaturelle. Aucun soleil ne brille comme ça. Et les trois avec Jésus, les trois sont éblouis. Ils prennent conscience de la présence de Dieu en Jésus. Et cette scène leur rappelle une histoire de l'Ancien Testament. Leur rappelle l'histoire de Moïse au Sinaï, à un détail près. La gloire de Jésus ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. En plus, deux hommes apparaissent et parlent avec Jésus. Ce Jésus qu'ils connaissent bien, mais qui devient tout à coup tout autre. Alors, ils n'ont pas tout de suite conscience de l'identité des deux hommes avec Jésus. C'est au fil de leur conversation qu'ils découvrent que ceux qui sont avec Jésus sont en fait Moïse et Élie. Wow. Moïse et Élie, ils sont là. Et de quoi parlent-ils? Le contenu de leur conversation doit être hyper important. Parlent-ils de l'expérience de Moïse sur le mont Sinaï? Est-ce qu'ils parlent des plaies d'Égypte, du don de la loi? Alors, Élie est-il en train de raconter à Jésus et à Moïse le défi qu'il a lancé au prophète de Baal sur le mont Carmel? Est-ce qu'il rappelle à Jésus et Moïse cette prière pour que la pluie tombe du ciel? Non. Non. Les trois ne parlent d'aucun de ces événements pourtant glorieux. De quoi parlent-ils? Ils parlent de Jésus. Ils parlent, et là il y a une phrase, une formulation un peu bizarre. Ils parlent de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Une drôle de phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans le grec du Nouveau Testament, le mot utilisé par Luc pour départ ici, c'est le mot exode. Il parle de l'exode de Jésus. Jésus doit partir à Jérusalem. C'est la dernière étape de sa mission qui va le mener à la croix. Son exode. Et c'est un sujet de la plus haute importance pour Élie et Moïse. Plus glorieux que l'expérience du mont Sinaï. Plus important que le moment où le feu va descendre du ciel pour consumer le sacrifice d'Élie en face des prophètes de Baal. L'exode de Jésus vers Jérusalem, c'est au centre de leur conversation. L'exode de Jésus, c'est le parcours spirituel de Jésus vers le calvaire. Cet événement qui va permettre la libération du péché, de la mort. Voilà le sommet de toutes les expériences jamais vécues par un serviteur de Dieu. Voilà ce qui passionne le ciel au moment où Jésus est au sommet de la montagne. Ce qui passionne le ciel, l'exode de Jésus à Jérusalem, son sacrifice. Comment les disciples réagissent-ils à cette scène extraordinaire? Luc mentionne que Pierre, Jean et Jacques, assoupis, sur le point de s'endormir, juste quelques instants auparavant. Alors, Pierre, Jean et Jacques luttent à présent contre le sommeil. Ils ne veulent plus dormir. Ils voient la gloire de Jésus. Ils voient les deux hommes qui étaient avec lui. Ils les reconnaissent. C'est Moïse et Élie. Ils sont aux premières loges et ils ne veulent rien manquer de ce qui va se passer. Ils observent en silence, bouche bée. Mais au moment où Moïse et Élie sont sur le point de repartir, Pierre, encore lui, Pierre ouvre la bouche. Et les paroles qu'il va prononcer trahissent à la fois l'émerveillement et la peur. Pierre et ses amis sont subjugués par la scène qu'ils ont sous leurs yeux. Et pourtant, malgré leur peur, ils sont bien. Ils sont bien. Combien ils souhaiteraient que ces moments-là ne finissent jamais. Pierre veut retenir Élie et Moïse et il propose de leur bâtir une tente. Une tente. Un peu comme les Israélites avaient fait après être sortis d'Égypte, quand ils ont célébré la fête des cabanes. Il veut se faire avec Moïse et Élie, Jésus et Jean et Jacques, une sorte de fête des cabanes en privé. Jésus vient de dire qu'il doit aller à Jérusalem, mais Pierre veut le retenir. Il veut le retenir. Et Luc précise que les paroles de Pierre, même s'ils partent, elles partent d'une bonne intention, les paroles de Pierre n'ont aucun sens. Ça n'a pas de sens. Il sait plus ce qu'il dit tellement il est impressionné. Il sait plus ce qu'il dit. Pour Pierre, bâtir une tente à Moïse, à Élie, comme à Jésus, c'était une façon de les glorifier tous les trois de la même façon. L'idée de Pierre paraît bonne, mais elle révèle en fait son incompréhension par rapport à l'identité de Jésus. Dieu partage sa gloire avec aucun homme. Il ne permettra pas à Pierre de glorifier Moïse et Élie au même titre que Jésus. Une voix venue du ciel va remettre les pendules à l'heure. Et dans cette voix qui sort de la nuée, Dieu enseigne plusieurs leçons, des leçons fondamentales pour les trois disciples qui sont bouleversés, mais des leçons aussi très importantes pour nous. Première leçon. Dieu identifie Jésus comme son fils. Mon fils, il vient de Dieu, il est comme Dieu, il exprime Dieu. Lui seul est vraiment fils de Dieu dans le plein sens du terme. Alors lorsque le Nouveau Testament nous présente, nous les croyants, comme les fils et les filles de Dieu, c'est dans un sens différent. Nous sommes des enfants d'adoption en Jésus-Christ. Mais Jésus, lui, est naturellement fils. Deuxième vérité concernant Jésus. Il est l'élu de Dieu. Et ce titre-là, c'est un écho d'Ésaïe 42. Le passage où le Messie à venir est présenté comme un serviteur souffrant. Dieu, en désignant Jésus comme son élu, l'identifie au Messie. Mais pas comme le Messie que Pierre, Jean et Jacques ont à l'esprit. Non, Jésus doit souffrir. Et vous avez sans doute remarqué en lisant le Nouveau Testament qu'à chaque fois que Jésus a essayé de leur expliquer cette vérité, la souffrance de Jésus, les disciples ne l'ont pas reçue. Ne l'ont pas reçue. Jésus, un Messie qui doit souffrir. Troisièmement, finalement, il y a le commandement « Écoutez-le » qui nous rappelle la prophétie dont Moïse parle dans le livre du Deutéronome, chapitre 18. « Écoutez-le » Selon Deutéronome 18:15, un prophète doit paraître à la fin des temps. Il va libérer le peuple de Dieu comme Moïse, un prophète comme Moïse. Il va l'entraîner dans un nouvel exode et là, il va inaugurer le royaume de Dieu. Et ce prophète comme Moïse, eh bien c'est Jésus. Comme Moïse l'a annoncé, c'est à lui que tous les membres du peuple de Dieu devront obéissance et soumission. Ceux qui ne se soumettent pas seront retranchés. Alors Dieu, en parlant du milieu de la nuée, fait donc comprendre aux disciples que Jésus, dans sa personne, accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il récapitule toutes les promesses de Dieu. Toutes les attentes du peuple de Dieu sont en Jésus. Messie, prophète, chef du peuple, libérateur. Jésus. Alors après que la voix se soit tue, Jésus se retrouve seul. Moïse et Élie ont disparu. Et les apôtres sont encore bouche bée, interloqués. Quelle utilité un texte comme celui-ci que l'on vient de lire peut-il avoir pour nous aujourd'hui? Quelle utilité? La question mérite d'être posée, parce qu'après tout, il est peu probable que nous ayons comme Pierre, Jean ou Jacques, une révélation spectaculaire de la gloire de Jésus sur le sommet d'une montagne. Vous n'entendrez peut-être jamais la voix de Dieu vous parler pendant que vous priez. Vous ne verrez sans doute pas Moïse et Élie vous apparaître pendant votre sommeil. Quelle utilité ? Le texte de Luc a plusieurs choses importantes à nous apprendre ce matin, je crois. Comme les apôtres, comme les contemporains de Jésus, on a besoin que de plus que toute autre chose savoir qui est Jésus. On a besoin. Pour le projet Aval d'Europe, pour l'implantation des églises, pour faire connaître le nom de Jésus autour de nous, ici, dans le quartier, à Paris. Comme eux, on doit en arriver à une conviction personnelle. On ne peut pas se contenter de rumeurs, d'idées vagues, de quand dira-t-on. Il faut savoir qui est Jésus. Il y a plusieurs idées, vous savez, qui circulent de nos jours au sujet de Jésus. Et même en tant que chrétien, on peut parfois être influencé par ces idées-là. Vous n'avez qu'à sortir, j'ai fait des stands bibliques dans des quartiers de Paris, on demande aux gens qui est Jésus, on entend toutes sortes de réponses. Comme Pierre, Jean et Jacques, il faut être prêt à confronter notre conception de Jésus avec ce que Dieu dit dans sa parole. Il faut pouvoir se poser la question. Est-ce que j'ai une conception de Jésus biblique? Est-ce que ce serait possible que ma conception de Jésus soit incomplète ou tordue? Le récit de la transfiguration, quand il est replacé dans son contexte, nous invite à reconnaître en Jésus à la fois le serviteur souffrant, le roi de gloire, à la fois le fils de l'homme et le fils de Dieu, le tout-puissant, celui qui est compatissant, celui qui est proche, celui qui est élevé. Et peut-être que nous, parfois, on est promptes à vouloir partager avec Jésus sa gloire, maintenant. La gloire de son règne. Mais le passage de Luc nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de gloire sans la croix. Sommes-nous prêts à accepter la réalité de la croix dans notre vie de tous les jours? Il y a une autre vérité que ce texte veut imprimer au plus profond de notre cœur. Et c'est celle-ci. Jésus n'a et ne doit jamais avoir de rival dans notre vie. Il est prééminent. Aucun autre ne peut être mis à son niveau. Jésus doit devenir le roi suprême. Rien ne doit partager l'honneur qui lui est dû. Il doit être l'unique chef, le Seigneur, celui qui détient toute l'autorité pour nous. Quelle place Jésus a-t-il dans nos vies ce matin? Finalement, comme pour Pierre, Jean et Jacques, qui ne virent plus que Jésus à la fin du récit. Vous avez remarqué, quand Moïse et Élie sont partis, ils ne virent plus que Jésus. Je voudrais qu'on prie. Que Jésus remplisse notre vision à nous aussi. Que sa vue nous captive tout entier. Que la vision de Jésus éclipse tout le reste. Que toutes les autres gloires du ciel, de la terre pâlissent à nos yeux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, mon élu. Écoutez-le. Prions.